Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Thibaut Giangrande.
Il est presque 19h, vous êtes sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez tout juste, merci si vous êtes resté, ça fait plaisir, on est là avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz que j'accueille qui nous rejoint, la Dream Team Foot RMC est là, salut Kevin.
Salut à tous.
Ça va bien?
Ça va très bien.
T'as vu un bon match de foot?
Eh bien, un match.
Salut Kevin.
Très correct.
Le Paris Saint-Germain a battu Strasbourg 4 buts 1, 32e journée de Ligue 1. Les Parisiens reviennent à 3 points du LOSC. Pas de blessés à signaler. Une bonne après-midi pour le Paris Saint-Germain. Débrief complet à suivre sur RMC avec vous au 32-16. Vos messages sur les réseaux sociaux. Les conférences de presse en direct. Celle de Pochettino, de la Méno dans quelques minutes. On ira également à Munich retrouver notre envoyé spécial Loïc Tanzi pour avoir les toutes dernières infos autour du Bayern qui jouait également aujourd'hui et qui n'a pas gagné. Match nul face à l'Union Berlin, un partout. Le Bayern qui avait fait largement tourner. Vers 19h30, on ira à la Mosson, Montpellier-Marseille, c'est à 21h et là c'est la course à l'Europe. La dernière chance peut-être pour les Montpellierains de revenir sur les Marseillais, de se rapprocher de la 5e place qualificative également pour l'Europe. Et puis le classico, le vrai, l'unique, le seul, Real Madrid-Barcelone, c'est ce soir. L'unique, le seul, Fred Hermel également sera avec nous à 19h45.
La course au titre.
Salut David, qui a fait le 32-16
David. Bonjour, oui je suis là.
Supporter salut du David. Paris Saint-Germain, David.
Salut David.
Salut, bonjour Kevin, bonjour Coach Courbis.
Tu nous appelles d'où David?
Bonjour salut. À tous les auditeurs français.
Salut David.
Écoute, les auditeurs français t'écoutent David, qu'est-ce que tu as pensé de cet après-midi? Le Paris Saint-Germain s'impose 4-1 contre Strasbourg. Est-ce que c'est une journée parfaite pour le PSG aujourd'hui David?
Bah écoutez, après ce n'est que mon avis, mais moi je trouve que bon, la victoire est essentielle, on revient à 3 points de Lille, mais je pense que quand même le coach Pochettino a pris des risques. Bon, il a titularisé Kylian Mbappé, d'accord, pas de problème, mais je trouve qu'il l'a sorti un peu tard, 89e minute, il y avait quand même un risque de blessure sur lui, et sachant qu'on bah, n'a pas Neymar, enfin qui a été blessé dernièrement, Marquinhos qui est out, Verratti qui a le Covid... Je me dis que s'il y a cette liste-là de blessés, il y avait encore d'autres joueurs qui s'ajoutaient, ça aurait été très compliqué.
Il y a des messages, pas mal de messages sur le Direct Studio, David, Alfred par exemple, qui met aucune erreur de Pochettino puisqu'il n'y a pas de blessure, risque peut-être, mais il dira que c'était un décrassage pour Mbappé. Il y a pas mal de messages qui vont dans ce sens en disant, voilà, faut arrêter d'avoir peur pour les joueurs, etc. David, qu'est-ce que tu penses de cet argument-là?
Bah, il n'y a pas de blessé, certes, mais dès le moment où on prend un risque, si derrière il se loupe, bah, tout le monde va dire ah oui, mais il aurait dû sortir Mbappé à la mi-temps, pourquoi il l'a mis? Donc c'est tout le temps le même problème, sachant qu'on n'a jamais eu un effectif totalement au complet en Ligue des Champions, et si Paris veut gagner la Ligue des Champions, il faut mettre quand même toutes les chances de notre côté. Quand on regarde par exemple le match du Bayern aujourd'hui, bah, Coman il sort sur blessure. Déjà qu'ils n'ont pas Lewandowski et Gnabry qui ne sont pas là. Si à cette liste-là, on ajoute Coman, bah pour le Bayern Munich, ça va être compliqué. Tant alors, mieux pour PSG.
Sur Coman, David, juste pour préciser, on a eu Loïc Tanzi qui est à Munich et au plus près du Bayern, qui nous disait que sur Coman, oui, c'était prévu qu'il sorte à la mi-temps. Alors certes, avant de sortir, il s'est touché le genou. Et on sait qu'il a un genou qui le fait souffrir. Mais a priori, rien de grave et c'était prévu. Donc bah, on écoute, surverra l'évolution.
Ça, on verra. De la façon dont il est resté assis par terre avant de sortir et tout, c'est pas un gars qui a pris une piqûre de moustique sur le genou, hein. Ouais. Donc c'est quand
ouais,
même, c'est quand même un gars qui en plus avec une tête pessimiste là de se dire ah putain merde je me suis encore fait mal. Bon, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je suis pas sûr non plus que ce soit rien du tout.
En tout cas, pour Kylian Mbappé, rien de tout ça. Il est sorti à la 89e et en forme, pas blessé. Kevin Diaz, j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Est-ce que tu rejoins coach en disant qu'au final, Pochettino a pris un vrai risque de le laisser aussi longtemps sur le terrain?
Ouais, bah, je vais quand même rejoindre coach et David d'ailleurs, ouais, qui était d'accord, si j'ai bien compris. Le problème de Kylian Mbappé, enfin c'est pas un problème du tout, mais on va dire que le truc avec Kylian Mbappé, c'est que c'est l'arme numéro 1 pour le PSG face au Bayern. C'est pas l'arme numéro 2, 3, 4, non, c'est l'arme numéro 1. C'est lui qui, par sa vitesse, a fait très très mal à cette équipe de Munich. Bien sûr, Neymar a joué aussi et toute l'équipe a fait un bon match dans l'ensemble. Il y a eu des dépassements de fonction, il y a eu des dépassements de soi, il n'y a pas de souci. Mais Kylian Mbappé, que ce soit contre le Bayern ou n'importe quelle équipe, quand tu joues avec un bloc bas, aujourd'hui, c'est ce que je disais moi après le match face au Bayern, mais Kylian Mbappé face à un bloc haut, toi qui joues en bloc bas, c'est l'attaquant numéro 1 aujourd'hui au monde, sans aucun problème.
Par sa vitesse, par
sa vitesse, par sa capacité à bien finir les actions, à quand même à être très très bon à haute vitesse. C'est ça sa qualité première. C'est d'être un joueur qui techniquement arrive à être à l'aise même à haute vitesse.
Voilà, mais justement parce qu'on parle de vitesse, moi aussi j'insiste plutôt sur l'accélération que la vitesse et tout. Mais oh, il y a quand même au bout de pas mal d'actions, il y a quand même pas mal de précision aussi. Hein, donc il y a pas beaucoup de maladresse.
C'est pour ça que je disais, bien sûr que si t'es supporter parisien, tu vois que tu mènes à la mi-temps, tu te dis bon, ça aurait été bien peut-être de le faire sortir pour rassurer tout le monde. Maintenant, je peux être aussi d'accord avec ceux qui disent bon, Mauricio Pochettino, il a peut-être fait un petit coup en le laissant jusqu'au bout. Je sais pas, peut-être que Kylian voulait aussi finir le match pour ses stats.
Oui, c'est possible.
C'est pas trop. Maintenant, voilà, on va dire que tout est bien qui finit bien pour le PSG. Et heureusement.
Comme je disais tout à l'heure, c'est nous qu'on est trop prudent et donc c'était la bonne solution. C'était la 89e minute.
Bon, et David, au-delà de tout ça, donc Mbappé est sorti, tout va bien, hein, la 89e, il n'est pas blessé. Ton club, le Paris Saint-Germain, s'est imposé 4-1. Est-ce que tous les voyants sont au vert, là, avant de retrouver le Bayern dans 3 jours pour ce quart de finale au retour de Ligue des Champions?
Bah, au vu de la prestation d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire oui, mais il y a quand même pas mal d'absents et on sait que Marquinhos est incertain, voire forfait.
Il y a peu de chance qu'il joue.
Ouais, c'est compliqué. Après, comme je disais tout à l'heure, il a pris un risque, sachant que c'était que Strasbourg en face. Si c'était Lyon, Marseille ou Lille, je veux bien. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un risque. Et j'ai envie de dire aussi que au niveau de l'effectif, on a quand même des latéraux qui sont vraiment faibles et que la puissance du Bayern Munich, c'est leurs ailiers. Donc, ça va être compliqué pour nous pour le prochain match.
Alors là, c'était Becker à gauche. Kerrer à droite, bon, on en a un peu parlé avec
Ouais, mais peut-être il y aura quand même une situation un petit peu différente et une stratégie un petit peu différente parce que bon, les latéraux, ok, Bakker est moyen, voire très moyen, Kerrer, j'en parle même pas, donc, mais en ce qui concerne Diallo, ça peut faire un arrière-gauche solide. Alors par contre,
Diallo,
le copain devant, hein, celui qui freine les adversaires et qui transforme les deux contre un en deux contre deux. Et là, ça va peut-être être l'organisation de Paris dans le match de mardi. J'attends ça avec impatience parce que la qualification ne soit pas encore dans la poche, ok, je veux bien. Que notre ami Polo soit encore très optimiste,
excuse-moi de défendre Polo, mais Polo a dit hier pendant l'after et j'étais d'accord avec lui. Pour lui, il pense que le Bayern va se faire éliminer. Hein.
Ah d'accord, ça j'étais pas au courant.
Qu'il a dit.
Il a vraiment fallu qu'il force, tu vois. c'est un peu comme dans le dîner des cons, et ça n'a rien à voir avec Polo, le mot con. Quand je vois Villeray en train de dire allez l'OM, tu vois. Donc si tu dis que le Bayern ne va pas se qualifier.
Derrière
ça, tu reprends ta respiration.
C'est pas ça,
coach. L'imitation n'était pas parfaite, mais c'était quand même mieux que Nicolas Canteloup. Ouais, Kevin.
Mais par contre, j'attends avec impatience le match de mardi parce que je ne m'imagine pas le Bayern ne pas marquer. Mais je ne m'imagine pas non plus
d'ailleurs ne pas prendre.
Le Paris Saint-Germain ne pas marquer.
C'est ça en fait. C'est pour ça qu'en fait je pense que Polo était frustré parce que on a tous vu ce match et on a bien vu que au minimum un résultat qui aurait été quand même logique, ça aurait été un match nul. T'as Alaba qui à la fin la frappe et ça passe à un millimètre du poteau. Je pense que le match nul aurait permis au Bayern vraiment de se qualifier. Mais là, quand t'as perdu quand même, c'est quand même si t'es peut-être meilleur sur 90 minutes.
C'est pas seulement perdu. Tu as fait les calculs.
T'as perdu et t'as pris 3 buts en plus.
Voilà.
Ouais. Non, mais c'est ça. Pour moi, ça va être très, très compliqué.
Sauf s'il y a un 3-2 dans l'autre sens, il faut pratiquement qu'il marque 4 ou 5 buts le Bayern
coach,
pour se qualifier.
Au moins 3. Coach et Kevin, on reparlera de ce quart de finale retour un peu plus tard et du Bayern Munich. On va revenir sur ce Paris Saint-Germain-Strasbourg. On va remercier David au 32-16. Bon, merci. David, t'as fermé les yeux, tu l'avais, Jacques Villeray-Courbis du dîner de con, là, tu l'avais ou pas?
Je l'avais et en plus, je suis un grand fan du cinéma donc. Très belle référence.
Allez l'OM.
Il le tient pas mal. David, merci beaucoup. Tiens, juste avant de raccrocher, j'ai un message pour toi parce que t'es arrivé en disant que tu saluais tous les auditeurs français. J'ai un message de Karim sur le RMC Live qui me dit et auditeur français, moi qui suis espagnol, je fais quoi? Tu t'embrasses aussi les auditeurs espagnols, Karim.
J'embrasse aussi les auditeurs espagnols et aussi les catalans qu'on a laissés sur notre sur notre calendrier il y a pas longtemps.
Voilà, le petit tac le passage.
David, pendant qu'on a un petit pronostic sur le classico de ce soir.
Le classico de ce soir, je dirais 2-2 avec 2-3 frappes de Vinicius à côté et un doublé de notre Français Karim Benzema que j'aimerais bien qu'il revienne en équipe de France quand même.
Eh ben David, reste à l'écoute, on parlera de ce classico de ce Real Barça de ce soir
s'il vous plaît.
Avec Fred Hermel à 19h45. Vas-y David.
Petite dédicace, j'embrasse très fort mon ami Yanis qui est mon ami d'enfance et que c'est dur de dire à nos amis qu'on les aime et à travers cette radio, j'aimerais lui dire vraiment que c'est un très bel ami. Et voilà, je l'aime et qu'il prenne soin de lui.
David, ah, c'était beau. Oui. Tu m'as foutu les poils, c'était beau. Franchement,
merci. Magnifique.
David, merci. Merci ton coup de fil.
On le salue aussi.
Et ouais, on le salue.
Salut David.
Et passe une bonne soirée, David. Et à très vite sur RMC. 19h09, c'est l'intégrale foot. Nous sommes en direct avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz. La Dream Team Foot RMC est là pour revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain dans la course au titre. 4-1, 32e journée de Ligue 1. 4-1 cet après-midi à la Méno, à Strasbourg. Début de Mbappé, Sarabia, Kine et Paredes. Supporter parisien, on vous attend. Vous êtes là au 32-16. Thomas est avec nous. Il a fait le 32-16. Salut Thomas.
Salut Kevin, salut coach.
Salut Thomas. Thomas, supporter du Paris Saint-Germain, tu as quel âge Thomas?
J'ai 33 ans.
Ok, par nouveau supporter, qu'as-tu pensé de cette journée aujourd'hui? Est-ce que c'est une journée parfaite pour ton club à 3 jours de retrouver le Bayern?
Mais déjà, je n'aurais pas cru qu'on gagne 4-1. Déjà, ça c'est la première chose. Déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner avec une victoire assez large. Mais par contre, moi, je suis le coach du Bayern. Là, je dis les gars, faut tout donner sur Danilo en défense, quoi.
Ah.
Parce que là, Danilo, c'est léger, quoi. C'est très léger. C'est sûr que c'est pas Marquinhos, mais là, Danilo, à part la tête, les relances, c'est
lent. Tu veux dire que Danilo, c'est le Zoulé de PSG?
C'est très compliqué.
Alors, je coupe tout le monde, excusez-moi. On va écouter en direct Mauricio Pochettino, en direct au micro de Sébastien Ruffo à la Méno. Qu'est-ce qu'il retient de cette victoire?
Creo que mostramos un buen estado.
Alors là, vous l'aurez reconnu, c'est de l'espagnol.
Combativo, d'équipe.
Tu peux faire la traduction,
si tu peux faire la traduction en direct? Ouais, la traduction, Kevin.
Creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque la calidad. C'est le plus important, c'est une équipe comme Paris Saint-Germain.
Le plus important, c'est qu'on a gagné parce que de toute façon, tout le monde sait que le PSG a de la qualité.
Los entrenadores queremos que nuestros equipos jueguen como equipo, como real, como un equipo.
Les entraîneurs veulent que leur équipe joue comme une vraie équipe.
Se ajuden y estén
que les joueurs s'entraînent.
Creo que eso es lo más importante que hemos mostrado hoy aquí.
Ça, c'est le plus important de ce qu'on a montré aujourd'hui.
Voilà, maintenant il y a la traduction du traducteur, mais vous avez le traducteur officiel RMC, Kevin Diaz. On va retourner à la Méno dans quelques instants. Là, c'était la première réponse de Mauricio Pochettino. On l'attend, sa réponse sur Navas hein, aussi, qui est sorti à la mi-temps, et puis sur son coaching autour de Mbappé. On reviendra à la Méno dans quelques instants. Thomas, au 32-16, est toujours avec nous. Thomas, tu pointais du doigt Danilo, pour toi, le point faible de la défense parisienne. Coach et Kevin, Danilo en défense centrale, c'est définitivement pas une bonne idée. Pochettino n'a pas le choix puisque Marquinhos s'est blessé, mais c'est vraiment c'est si compliqué que ça.
Moi je trouve Thomas un peu dur avec Danilo parce que c'est pas son poste défenseur central, ça ne l'a jamais été. Thomas Tuchel l'avait fait jouer là pour dépanner, on ne sait pas trop s'il y avait une lutte de pouvoir avec Leonardo à l'époque. Bon bref, mais en tout cas regarde bien la deuxième mi-temps, notamment Thomas face au Bayern. Désolé de refaire un petit crochet par le match du Bayern, mais notamment dans le jeu aérien, il a été monstrueux Danilo. Monstrueux. Il a sorti 4-5 ballons là devant Choupo-Moting et Müller, et je peux te dire que sa taille, elle fait quand même du bien, notamment dans ce domaine-là, sachant que le PSG devrait jouer, je pense, en bloc bas et qu'il va y avoir encore beaucoup de centres.
Mais là.
Après aujourd'hui,
Strasbourg,
c'est pas un défenseur central.
Il dépasse. Il est devant, il observe, il est à un mètre de retard.
Et Thomas, sur le but de Strasbourg, t'en as un autre qui se trouve un petit peu, parce que le dernier Parisien a touché le ballon, je crois, que c'est Kerrer qui la rend avant de se faire passer sur le côté.
Kerrer, c'est Casper, Kerrer, ça devient de plus en plus compliqué, Kerrer. Donc, mais on a quand même dans l'équipe, on a aussi un gamin. Bon, à part Dagba, on a Pembele aussi qui pourrait jouer aussi. Mais je pense, moi, j'aurais en tant que supporter parisien, j'aurais préféré voir essayer un Diallo en défense centrale par la suite.
Ça fait deux gauchers.
Et ouais, mais bon, Diallo, je le vois plus serein dans ce côté-là.
Et à ce moment-là, tu mets qui arrière gauche, Bakker?
Bakker, il a joué assez souvent avec Tourelle, il est pas non plus trop fantomatique. Je trouve que voilà, il assure ce qu'il fait, il fait le strict minimum. Après, bon, c'est sûr, mais bon, mais Diallo, après, voilà, Diallo.
Mais Diallo, il a pas une gêne physique, Thomas?
Si, là, il est sorti à la mi-temps, là, face au Bayern, au match aller, il était malade, a priori. Donc,
ouais, voilà, ouais, au top. Ouais. Donc, il n'est pas au top.
Ouais, il est pas. Qu'est-ce qu'ils font sur le Bayern? Il va le remettre à gauche, alors, c'est ça?
Il est aussi, il sent mieux, je pense.
Oui, pas mieux aussi. Donc, le problème, ça sera le poste d'arrière droit. Parce que arrière central, côté droit, pour jouer aux côtés de Kimpembe. Ben Danilo, même si c'est pas son poste, il peut dépanner à ce poste-là. Ouais, quand je pense que l'autre solution, ça peut être Kerrer. Désolé, il y a déjà pour Pochettino, ben trancher qui jouera arrière droit. Je te pose la question.
Et pourquoi il jouera arrière droit pour prendre un peu l'habitude de jouer un peu là. Je comprends pas en fait.
Ben là, je pensais qu'il pouvait faire 60 et 30 minutes l'un et l'autre. Eh oui. Donc là, ça voudrait dire qu'on s'achemine vers un Kerrer arrière droit.
Ben, ça, je comprends pas. Dire, c'est que là, en mettant Kerrer,
c'est quand même
inquiétant. Je comprends pas.
Thomas, coach et Kevin, Pochettino vient de parler de Navas. On parlait de son coaching. Navas remplacé à la mi-temps par Sergio Rico. Navas sorti par précaution. On pense que ce n'est rien de grave. On a un excellent service médical. Voilà ce que dit Pochettino. Donc, quand il dit quand même, on pense que ce n'est rien de grave.
Ah non, là, ça veut dire que là, c'est pas pareil du tout. Voilà. Excusez-moi, je vais pas faire une crise de pessimisme. Oui. Mais n'oublions pas quand même que Navas, si je me trompe pas, il a quand même été blessé il y a 3-4 semaines.
Ouais, et que en plus il a fait un match plutôt correct au match aller face au Bayern.
Ah ben, ouais, correct,
hein, correct, moyen plus quoi. Ouais. Voilà.
Tu sais que dans l'avant-match et dans nos prudences excessives, le cas de Navas a été prononcé quand même.
Eh oui. Et voilà. 19h15. Thomas, merci d'avoir fait le 32-16. Supporter de Paris Saint-Germain. Passe une bonne soirée, Thomas. Et à très vite sur RMC. On est dans l'intégrale foot avec Roland Courbis, avec Kevin Diaz. La Dream Team Foot est là. Vous aussi, vous êtes là au 32-16, supporter parisien, pour débriefer la victoire du Paris Saint-Germain cet après-midi contre Strasbourg. Match dans la course au titre de la 32e journée de Ligue 1. Cette victoire 4-1. On en parle avec vous au 32-16 avec coach et Kevin. Et puis, on ira dans un gros quart d'heure à la Mosson. On s'intéressera à la course pour l'Europe. C'est Montpellier-Marseille ce soir à 21h. Et puis le classico, hein, gros soirée de foot à vivre sur RMC. Real Madrid-Barcelone, c'est ce soir à 21h également. Fred Hermel nous rejoint dans une petite demi-heure. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot,
Thibaut Giangrande.
Avec la Dream Team Foot d'RMC, Roland Courbis est là, Kevin Diaz également, pour revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain cet après-midi. 4-1 à la Méno contre Strasbourg, but de Mbappé, Sarabia, Kin et Paredes. On est également en direct de la Méno. Vous avez entendu tout à l'heure Mauricio Pochettino se féliciter de sa victoire de cette équipe. Nous dire également qu'il a sorti Navas à la pause par précaution, qu'il pense que ce n'est rien de grave et que le PSG a un très bon service médical. Il est toujours en conférence de presse et on n'hésitera pas à retourner à la Méno en direct pour écouter l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Supporter parisien, vous êtes avec nous également au 32-16. C'est le cas de Malek, qu'on accueille en direct sur RMC. Salut Malek.
Ouais, bonsoir l'équipe, bonsoir Kevin, coach Courbis.
Salut Malek. Comment ça va Malek? Est-ce que tu as passé une belle après-midi en écoutant ou en regardant ton club de cœur?
Bah ouais, surtout vu le temps qu'il fait en ce moment, ouais, on a passé un bon moment.
Est-ce que tu as des critiques à formuler, Malek? Parce que j'ai pas mal de messages là sur le direct studio. Par exemple, Eric qui dit « Incroyable, le PSG bat le Bayern, ne tremble pas aujourd'hui et on critique encore. C'est quoi ces supporters? Est-ce qu'un jour on sera encourageant avec le PSG ?» Malek, toi tu critiques ou tu viens là juste pour féliciter ton club?
Non, moi je suis d'accord avec lui. Parce que toute la semaine d'ailleurs, j'ai écouté RMC sur différentes émissions. Et j'ai estimé qu'après la victoire du PSG contre le Bayern, on a dévalorisé Paris Saint-Germain et surtout dévalué la performance. Elle n'est pas exceptionnelle, la performance, parce qu'on a deux des meilleures équipes d'Europe, du monde, qui ont joué l'une contre l'autre, avec au sein du PSG deux des cinq meilleurs joueurs mondiaux. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Honnêtement, qu'est-ce qu'on veut de plus? On a un super joueur qui est Kylian Mbappé, qui aujourd'hui, je pense qu'il a conscience de ce qu'il joue là sur la fin de saison et qui porte toute l'équipe à lui tout seul avec des buts et des enchaînements d'actions exceptionnels. Donc non, on peut pas critiquer cette équipe-là. Tout va reposer sur la composition de l'équipe que nous fera Pochettino et son management. Et il y a aussi un autre adversaire qu'il faut prendre en considération, et pas des moindres, qui est la Covid. Quand on a vu Moïse Kine rentrer sur le terrain, il a craché ses poumons. Ouais. J'aimerais pas qu'il arrive la même mésaventure à un autre joueur du Paris Saint-Germain. Sinon, je suis persuadé qu'ils vont faire le travail au match retour.
Kevin et coach, vous rejoignez Malek sur son analyse?
Ah ben oui, le match retour, c'est disons logique que le Paris Saint-Germain soit optimiste. Tu as mis 3 buts à l'extérieur et tu as gagné 3-2, même s'il y avait des absents aussi du côté du Bayern, avec notamment Lewandowski. Mais tu gagnes contre une équipe qui n'a plus perdu à domicile depuis 2 ans. Et cette équipe-là, elle est quand même assez impressionnante. Elle est tellement impressionnante qu'il y a même un peu trop de confiance. Cet excès de confiance, quand tu as vu ces arrières centraux, quand même, je dirais, pas très rapides, être aussi haut et laisser 40 mètres derrière eux, c'est quand même assez impressionnant. Ils ont même failli en prendre un quatrième. Donc là, on attend avec impatience de voir ce qui va se passer dans les deux équipes, ce qui va se passer en faisant un petit peu ce soir, ben les comptes en ce qui concerne les blessures. Est-ce que Coman c'est grave? Est-ce que Navas c'est grave ou pas? C'est sûr que Navas, avec le boulot qu'il a fait dans le match aller, pouvait quand même avoir un petit peu quelques courbatures qui, j'espère, oui, ne se sont pas transformées en contractures ou élongations.
Mais le truc, c'est que moi, je comprends tout à fait Malek, parce que Malek, il est supporter du Paris Saint-Germain. Donc lui, il est dans l'émotion du fait positif d'avoir vu son équipe gagner. Et il espère, et moi, je suis d'accord avec lui, je pense que le Paris Saint-Germain a toutes les chances... puisqu'ils ont survécu à ce premier match, je pense qu'ils ont toutes les chances de se qualifier au second. Mais attention, tu sais Malek, on dit souvent, d'ailleurs aussi ici sur RMC, que la France n'est pas forcément un grand pays de football. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tous les termes de cette expression. Mais si on veut de plus en plus aller vers un grand pays de football, dans grand pays de football, et moi je connais, hein, t'inquiète pas, je suis binational et je peux te dire que dans beaucoup de grands pays de football, la critique a fait partie de cette philosophie-là ou de cette expression-là. Dans le sens où toi tu vois le match par rapport au prisme du Paris Saint-Germain en tant que supporter, mais nous en tant qu'analystes et consultants, moi je suis désolé, j'ai regardé ce match, je suis pas pour le PSG, je suis pas pour le Bayern. Le Bayern, je les ai vus jouer peut-être 10 fois cette saison, pas plus. Je suis désolé, l'équipe qui m'a donné du plaisir, c'est le Bayern. Je suis désolé, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, le Paris Saint-Germain a gagné ce match, et bravo à eux. Et s'ils se qualifient, personne ne contestera cette qualification. Mais tu peux pas reprocher à celui qui analyse avec un point de vue neutre d'avoir vu que le Bayern aussi n'aurait pas démérité s'ils avaient gagné ce match 4-3, tu vois.
Malek, réponds-lui à Kevin. Kylian Mbappé, il t'a donné du plaisir aujourd'hui aussi, ce but là qu'il met.
Ah bien sûr.
Mais entre le but du PSG où il est contre Bayern où il est carrément excentré et il la met à ras du poteau, c'est un but qui est exceptionnel. Dans sa conception, il est exceptionnel. Le but de cet après-midi, pareil, il est encore excentré. Je sais pas comment il fait pour la mettre. Ouais. Franchement, quand vous êtes gaucher, je sais pas comment il fait pour la mettre.
Sur le premier du gauche, il frappe en espérant qu'il y ait la réussite. Et cette réussite, en ce moment, il a le passe entre les jambes du gardien.
En tout cas, merci voilà. Malek. Malek,
pas de question.
Merci d'avoir fait le 32-16. Ton pronostic, ça va passer le PSG face au Bayern ou pas?
Ça va passer. Kylian, il va nous en mettre 2 parce qu'ils vont lui laisser, le champ libre et on ferait bien un 4-1.
Ah, voilà, je pense
4-1.
Très optimiste. Bah, alors là,
je suis pas forcément fan du PSG. Hein, tu sais, c'est une équipe jeune aussi le PSG. Mmh. C'est ça quand vous faites la différence entre le Bayern et le PSG. C'est une équipe qui est renouvelée à 30-40% tous les ans. Les mecs, ils se connaissent pas forcément. C'est des mecs avec une valeur intrinsèque, certes, qui est là, mais ils sont pas forcément tous connectés. Tandis qu'au PSG, ils sont tous au Bayern, ils sont tous connectés les uns aux autres.
S'il y a 4-1 pour le PSG, on te rappelle en tout cas, parce que c'est une grosse cote.
Allez, hein. Avec plaisir. Allez,
merci plaisir. Malek, merci d'avoir
bonne
fait le 32-16.
Passe une
bonne soirée, à très vite sur RMC, 19h24, l'intégral foot continue avec Roland Courbis, avec Kevin Diaz. Le Paris Saint-Germain a gagné 4-1 à Strasbourg cet après-midi, revient à 3 points du LOSC dans la course au titre. Pas de blessé à 3 jours de retrouver le Bayern Munich, c'est la double bonne nouvelle pour les Parisiens. Pas de blessé a priori, en tout cas, c'est vrai, coach qui me fait un signe de la main, t'as raison coach. On va surveiller l'évolution concernant Navas qui est sorti à la pause par précaution, nous a dit Mauricio Pochettino. Le Paris Saint-Germain qui retrouvera dans 3 jours le Bayern Munich en quart de finale, retour au Parc des Princes. D'ailleurs, événement dès 18h sur RMC. Le coup d'envoi, c'est 21h. Mais Top of the Foot, émission exceptionnelle dès 18h en direct du Parc des Princes. Jean-Louis Tour, Mohamed Bouafsi et toute la Dream Team RMC pour un avant-match de folie mardi. Et c'est déjà dans 3 jours. Le Bayern, on en parle justement tout de suite. Et on va prendre la direction de Munich, retrouver notre envoyé spécial Loïc Tanzi qui est en Allemagne depuis le match aller mercredi, depuis la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain. Loïc, on parle depuis tout à l'heure à l'antenne avec Kevin, avec Roland de la victoire du Paris Saint-Germain. Mais le Bayern a joué également cet après-midi, Loïc, en Bundesliga. Un Bayern qui a fait tourner, qui a galéré, qui a été accroché par l'Union Berlin, un partout. Est-ce qu'on reste confiant quand même à Munich après ce petit match du Bayern cet après-midi?
Oui, surtout on prend pas du tout en compte le match disputé cet après-midi parce qu'il y avait seulement 5 titulaires qui ont joué face au PSG, qui ont également joué face à l'Union Berlin cet après-midi. Donc non, il faut surtout pas prendre en compte ce match nul face à Berlin pour voir le Bayern qui se présentera sur la pelouse du Parc des Princes mardi. Et c'est assez marrant de voir d'ailleurs que le match, la défaite du Bayern au match aller n'a pas tant bouleverser les équilibres qu'il y avait avant la rencontre, c'est-à-dire qu'on a toujours un Paris Saint-Germain aussi prudent en disant attendez, on a gagné, il y a encore un match retour, c'est pas fini, il faut encore qu'on fasse un gros match au retour, et on a toujours un Bayern aussi toujours aussi confiant entre guillemets qui dit bah oui, on a perdu le match aller, mais on connaît notre force, on a vu aussi le match qu'on a été capable de faire face au PSG, et si on fait le même match au Parc des Princes cette fois-ci, on aura peut-être un petit peu plus d'efficacité offensive, et peut-être que cette fois-ci, on sera capable de mettre les actions au fond et de gagner 2-3, 3-1, 3-0, ce qu'il faut pour se qualifier. Donc on a un Bayern toujours aussi sûr de sa force et qui va se présenter à Paris mardi. Attention, ils étaient très sûrs avant la rencontre, ouais. Le match aller, et ils ont pris 3-2.
Oui, et puis ils sont sûrs, Loïc, on lit quand même pas mal de choses sur ce club en ce moment. Ça parle de guerre ouverte entre le coach et le directeur sportif, entre Flick et Salih Mudzic. Comment on vit ces polémiques là au sein du club bavarois?
Bah, c'est comme ça depuis le début de la saison, voire même depuis la saison dernière. En fait, il y a eu un conflit ouvert entre Flick et Salih Mudzic. On le sait depuis très longtemps au Bayern Munich. Là, ça arrive un peu plus sur la place publique, dans le sens où ils arrivent de moins en moins à se cacher les deux hommes. Mais ça n'a pas empêché l'année dernière le Bayern d'être champion d'Europe. Ça n'empêche pas le Bayern d'être en tête de la Bundesliga. Et ça perturbe pas tant que ça les joueurs, parce que au jour le jour c'est quand même Andy Flick qui gère ce groupe là et c'est pas Salih Mudzic, même si Salih Mudzic est tout proche, très proche de certains joueurs au Bayern Munich, mais voilà, ça c'est plus des problèmes de dirigeants, ou c'est un problème d'image aussi au niveau du club, mais ça ne perturbe pas tant que ça le groupe, comme ça ne perturbait pas tant que ça le groupe du PSG quand il y avait des problèmes entre Tourelle et Leonardo. Et il faut dire aussi qu'il y a pas, les individualités ne sont pas les mêmes au PSG et au Bayern Munich. Il n'y a pas de très grandes stars dans le sens d'ego au Bayern Munich comme il peut y avoir au Paris Saint-Germain. Des Mbappé et des Neymar sont plus difficilement gérables entre guillemets qu'un Lewandowski par exemple ne peut l'être au Bayern Munich.
Loïc Tanzi en direct de Munich pour RMC. Merci beaucoup Loïc, passe une bonne soirée printanière.
Avec
en
plaisir.
Allemagne, on a bien
compris. Salut, Loïc.
Le temps a changé en 3 jours en Allemagne. Tu rentres quand à Paris Loïc?
Demain.
Très bien.
Demain parce qu'il y a deux matchs lundi déjà, oui. Donc
on va enchaîner. 6 jours d'écart entre les deux matchs.
Ouais.
Merci Loïc, exactement. Bonne soirée, à très vite.
Merci beaucoup.
C'est vrai que demain à la VMB.
Ça passe vite, hein.
Oh
c'est fou cette Ligue des Champions. Tiens, les explications coach et Kevin de Mauricio Pochettino sur le temps de jeu de Kylian Mbappé. Il vient d'en parler au micro de Canal. Je cite, la meilleure chose pour Kylian pour être prêt, c'est de jouer. S'il sent quelque chose qui ne va pas, il sera le premier à le dire. Nous sommes des professionnels, on a un staff médical, on essaie de prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Les gens peuvent parler, c'est le football. Chacun a sa vérité, on ne peut pas rendre tout le monde heureux. Kylian est un joueur heureux sur le terrain. Fin de citation. Voilà l'explication de Mauricio Pochettino.
J'aime bien l'avant-dernière phrase.
Sur, c'était quoi l'avant-dernière?
C'était sur le fait que de toute façon, chacun aura son avis.
On ne peut pas rendre tout le monde heureux, oui. Ouais. Principe,
très bien.
Principe de l'after, notamment.
C'est ça.
Coach, merci. Avant de te remercier, coach, on a un petit cadeau. Geoffrey, dans l'oreillette. Écoute bien, Geoffrey me dit on a un cadeau pour que je puisse écouter.
Oh, allez, l'OM. Eh. Oh, chiotte, l'OM. Oh, chiotte, l'OM. Oh, chiotte, l'OM. Quel connard.
C'était Jacques Villeray dans le dîner de cons. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a un quart d'heure, coach Courbis nous a fait une imitation de Jacques Villeray dans ce film de 1997. Tu veux le refaire une dernière fois ou tu l'as pas mal hein.
Désolé, mais c'est un de mes films préférés.
D'ailleurs, coach, oui, c'était tu imitais Nicolas Canteloup qui imitait Jacques Villeray. Tu faisais beaucoup mieux. Merci, coach. Allez, une bonne soirée. À très vite, 19h30. Vous êtes sur RMC. L'intégral foot continue avec Kevin Diaz, avec vous au 32-16. Après la course au titre que vous vivez sur RMC, on s'intéresse à la course à l'Europe, les gars. Ça continue ce soir, 21h, Montpellier-Marseille, la cinquième place en ligne de mire pour ces deux clubs, direction Lamosson. Et puis il y a Classico ce soir, le seul, l'unique, le vrai, on en parle avec Fred Hermel, Real Barça, à suivre sur RMC.
RMC, Intégral Foot,
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz, 19h32, excellente soirée à l'écoute d'RMC. Merci d'être avec nous en ce samedi 10 avril. Nous sommes en direct jusqu'à 20h. À partir de 20h, la Ligue 2. Hein. Attention, la suite de la 32e journée cet après-midi. Il y a eu match nul entre Troyes et le Paris FC. Un partout, les Troyens toujours leaders. Le multiligueux avec Benoît Boutron à suivre à partir de 20h. C'est de toute façon une grande soirée foot qui vous attend sur RMC puisque vous vivrez le Classico Real Madrid-Barcelone en Liga à partir de 21h. On en parle avec Fred Hermel dans une dizaine de minutes. Et puis, on va vivre aussi ensemble sur RMC la course à l'Europe, parce que oui, on a la course au titre, mais on a aussi la course à l'Europe. C'est la cinquième place synonyme alors de Ligue Europa Conférence, hein, c'est la nouvelle Coupe d'Europe, voire même de Ligue Europa tout court en fonction du vainqueur de la Coupe de France. Montpellier-Marseille, en tout cas, deux prétendants face à face ce soir à 21h sur RMC. Et Julien Landry nous attend déjà à la maison. Salut Julien.
Salut Thibaut, salut Kevin.
Salut Julien. Salut à tous.
Julien, un match très important dans la course à cette cinquième place. Peut-être encore un peu plus pour Montpellier, qui est le moins bien placé des deux.
Exactement. C'est une sorte de finale hein, pour les Montpelliérains, soyons clairs. Hein. Si les Montpelliérains s'inclinent ce soir contre les Marseillais, ils verraient les Marseillais prendre 6 points d'avance, un écart qui semble abyssal à quelques journées de la fin du championnat. Mais en cas de victoire, ils pourraient revenir à égalité de points avec les Marseillais et s'offrir un sprint final dantesque, même si le calendrier montpelliérain semble plus compliqué que celui des Marseillais, avec notamment un déplacement à Lille dans une semaine, un déplacement à Nice qui semble aller mieux. Mais oui, c'est un match pour la cinquième place. Les Montpellierains, le clamont est fort. Ils veulent être européens à la fin de la saison. Alors évidemment, ça passe par le championnat ou ça passe peut-être par la Coupe de France où les Montpellierains sont encore engagés en quart de finale avec un déplacement qui semble abordable du côté du Canet en Roussillon. Mais oui, ce match-là, ce soir, peut être primordial pour la fin de la saison du championnat, en tout cas des Montpellierains.
Et oui, puisque Montpellier est 8e du classement avec 45 points. L'OM, 6e, 48 points. Et la 5e place qualificative pour l'Europe, occupée par Lens, est à 49 points. Donc c'est vraiment jouable pour ces deux clubs là, Kevin.
Oui, bah moi je suis d'accord avec Julien. D'ailleurs hier je disais que pour ce match entre Montpellier et l'OM, on va savoir, c'est-à-dire
là, ce soir
on va savoir. Ouais. Et ça vaut pour Montpellier bien sûr, parce que Julien le sait bien, on en a souvent discuté, les Montpelliérains, notamment lors d'un OM Montpellier, je crois que c'était au mois de janvier. Ah, ils avaient ils avaient été vraiment nuls, franchement. ils avaient été très très décevants. Pourtant c'était l'OM de Villas-Boas qui n'était pas au mieux. Ils avaient été complètement dominés, complètement absents, même si je crois qu'il leur manquait
Pas grand monde finalement, mais ils avaient fait une défense à 5. Tu te rappelles, Kevin, on avait discuté sur ce soir-là où tu comprenais pas le système de jeu de Zakarian, mais c'était compliqué.
Je ne sais plus le score.
Ils avaient perdu 2-1, mais ou même 3-1. Je crois qu'ils étaient dans les clous. Ils étaient revenus à un but partout et Dimitri Payet avait marqué à la 85e et ils avaient pris un but aussi à la 88e pour finalement s'incliner 3-1. Mais ça tenait du miracle que les Montpellierains puissent arracher le match nul vu la physionomie de la rencontre.
Ils ont quand même souvent été décevants dans les chocs, on va dire. Que ce soit contre Nîmes pour le derby, contre le PSG n'en parlons même pas. On se rappelle que notamment à la Mosson au début de saison, c'était un PSG qui a été quand même largement diminué. Face à l'OM, il faut vraiment gagner quoi pour bonifier cette saison. Et pour l'OM, c'est un peu pareil.
Est-ce que c'est une finale pour l'Europe, Julien? Tu as posé cette question à Vitorino Hilton cette semaine en conférence de presse. La réponse du défenseur montpelliérain.
C'est un match très important, surtout si on fait tout ce qu'il faut pour battre cette équipe de Marseille. Déjà, on revient à égalité de points avec eux. Donc après, il va nous rester encore quelques matchs pour viser la cinquième place. Pas comme une finale, parce qu'après ce match-là, il nous reste quand même d'autres matchs. Mais c'est un match très, très important.
ambitieux Hilton. Julien, il a peut-être raison de l'être en regardant tout simplement les résultats et la série qu'ils sont en train de faire, les Montpellierains, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas perdu. Les
12 matchs sans défaite depuis ce match nul du côté de Metz. Alors 9 matchs en championnat, 3 matchs en coupe. Mais oui, les Montpellierains sont sur une incroyable série d'invincibilité. Alors il n'y a pas que des victoires, il y a aussi beaucoup de matchs nuls. Mais Michel Derzakarian ne cesse de le répéter, que pour aller décrocher l'Europe en fin de saison, il faut faire des séries. Il faut prendre le plus de points possible. Mais voilà, il y a quand même cette Coupe de France dans un coin de la tête des Montpellierains, parce que c'est quoi le parcours le plus simple pour aller en Europe aujourd'hui, Kevin, pour les Montpellierains? C'est la Coupe de France où il reste potentiellement 3 matchs à jouer, ou le championnat avec un calendrier un peu compliqué. Donc ils ne vont pas galvauder ce match ce soir, mais voilà, le fait d'être engagé en Coupe de France pourrait changer un petit peu les objectifs des Montpellierains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Montpellier venait à s'incliner ce soir, il ferait une croix sur l'Europe via le championnat, et il mettrait toutes les forces sur cette Coupe de France, avec donc ce déplacement à Canet dans 15 jours. Et après, en plus, vu que Lyon et Monaco s'affrontent, un gros qui disparaît, et pourquoi pas aller faire un beau parcours dans cette Coupe de France.
Je suis d'accord, Julien, mais bon, c'est comme si tu restais 3 matchs dans un championnat. Alors certes, t'as le Canet en Roussillon, et derrière, t'as potentiellement Monaco et le PSG quand même.
C'est vrai. Non, mais bien sûr. Je dis pas le contraire. Mais il y a 3 matchs.
Jonathan Mancardi a dit que pour lui, Montpellier allait gagner la Coupe de France sur un but, bien sûr, de TG Savanier.
Boule de cristal, Jonathan Mancardi.
C'est possible.
19h37, vous êtes sur RMC, l'intégral foot. On s'intéresse à la course à l'Europe avec à 21h ce match à vivre sur RMC entre Montpellier et Marseille. Julien Landry est à la Mosson, on est avec Kevin Diaz. Julien, quelles sont les dernières tendances pour les compos de ces deux équipes?
Alors, côté Montpellierain, il n'y a pas de surprise, même s'il y a une toute petite incertitude concernant la présence de Jordan Ferry, qui a reçu une grosse béquille du côté de Châteaubriant mercredi soir, qui a été ménagé jeudi, qui a couru tout doucement vendredi, mais voilà, ça a été plus des précautions. Il devrait pouvoir tenir sa place au milieu de terrain avec le retour de TJ Savanier, qui était absent la semaine dernière du côté de Angers, qui a été ménagé lui pour la Coupe de France, et qui sera donc associé à Ferry et Mollet au milieu de terrain, Ristich, Congré, Hilton, Sambia pour la défense à 4, Mavididi, Delors, Laborde évidemment pour le trio offensif, un trio qui a marqué quasiment 30 buts, ce qui fait de ce trio le plus efficace du championnat de Ligue 1. Omlin dans les cages. Et côté Marseille, il y a quand même pas mal d'absents. Amavi, Ngatomo, Sakai, Rongier. Donc on devrait repartir avec ce 3-4-3 cher à Sampaoli, avec deux pistons, Lirola à droite, Luis Enrique à gauche, Payet, Milik, Tovin pour le trio offensif, Camara, Gay, et derrière Gonzalez, Balardi, Tsar, évidemment le capitaine Mandanda dans les cages.
Alors Julien, raconte-nous cette histoire que j'ai lue dans la presse ce matin. Je vois de quoi je parle. Le coup d'envoi devait être donné par quelqu'un qui ne le donnera finalement pas. Explique-nous tout ça.
Ouais, ça a un peu fait grincer des dents du côté des supporters montpelliérains. Bengus, bien connu des réseaux sociaux. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait sur Twitter?
Supporter avec de l'OM.
Supporter d'Olympique de Marseille, évidemment. Un vétéré supporter d'Olympique de Marseille. Ouais. Et donc qui a aussi un partenaire qui est le principal sponsor maillot de Montpellier. On va le citer, Pasinobet. Donc il a été invité jeudi du côté de Montpellier pour passer un test PCR avant de pouvoir distribuer officiellement le ballon du match ce soir. Sauf que, au-delà de passer le test PCR, il a été accueilli en grande pompe dans les installations de Montpellier. Il a reçu plein de cadeaux.
La boulette.
Il a reçu un maillot marqué 13 Bengus, où il a dit qu'il ne le porterait jamais. Il a pu rentrer dans le vestiaire des joueurs professionnels, côtoyer Vitorino Hilton, Daniel Congré, Andy Delors, Florent Mollet. Et évidemment, à deux jours d'un match, pour les supporters montpelliérains qui sont fans de leur club et qui parfois peuvent se saigner pour acheter un maillot ou pour acheter quelques goodies, c'est très mal passé. Donc c'est une initiative personnelle que le club a condamnée dans la soirée devant l'ampleur que prenait cette affaire sur les réseaux sociaux. Et Bengus, qui devait donc donner le ballon du match, ne le donnera pas ce soir. Mais oui, c'était pas forcément très bien vu de la part de cette initiative personnelle. Et d'ailleurs, il y a eu un tweet très rigolo ce matin de la part d'un supporter montpelliérain qui disait: attention à Canet, parce que Eni Mohamed, un autre grand supporter de l'Olympique de Marseille, avait pris d'amour pour Canet, suite que Canet avait éliminé Marseille, en disant: s'il vous plaît, d'éviter de faire venir Eni Mohamed à Montpellier. Donc voilà, ça n'est pas très bien passé auprès des supporters. Okay. Ils se sont excusés, mais voilà, c'est une affaire qui agite évidemment les réseaux sociaux, mais c'est un peu compliqué à gérer tout ça.
Retour au ballon à partir de 21h pour ce Montpellier-Marseille à vivre sur RMC, évidemment. Merci Julien, on te retrouve à 21h en commentaire.
À tout à l'heure, messieurs.
Tard, bye bye. Il est 19h40. Vous êtes sur RMC. L'intégrale foot continue en direct jusqu'à 20h pour aller tout droit sur le Multiligue 2 avec Benoît Boutron. On est toujours avec Kevin Diaz. Fred Hermel nous rejoint dans un instant parce que ce soir, c'est Classico, le seul, le vrai, l'unique. Rendez-vous dans un instant sur RMC.
RMC, intégrale foot.
Thibaut Giangrand.
19h41, on est avec Kevin Diaz. Vous savez quoi, un classico, c'est bien. Mais un classico qui peut être décisif dans la course au titre, c'est mieux. Le Real Madrid, 3e de Liga, accueille à partir de 21h. Barcelone, 2e, 2 points devant. Ce sera vif sur RMC, bien sûr. Hola, Fred Hermel.
Hola, chicos.
Notre correspondant en Espagne qui est à Paris ce week-end. Ça fait plaisir de t'avoir en studio un petit peu.
Ça fait plaisir, oui. Alors, j'aime beaucoup la teneur du studio. Ouais. C'est pas comme l'after où il y a beaucoup de lumière, là, c'est beaucoup plus intime.
Écoute, on a mis ambiance.
C'est presque ma chambre rangée, hein, pour les anciens comme moi. Qui...
En rouge et noir.
En rouge et noir, ou.
Ça, c'est Jeanne Masse.
Ou Jeanne Masse, voilà, exactement.
Voilà, vous avez remarqué, on a tous 65 ans.
Mais ce soir, ce sera entre Blaugrana et en blanc.
Exactement. Fred.
Enfin, là, c'est sobre. Milan,
c'est. Parfait.
Un classico avec les deux équipes en forme, qui sont bien placées au classement. Ça faisait un petit moment, non, Fred? En tout cas, c'était pas le cas du dernier classico au mois de décembre.
Non, mais surtout, oui, parce qu'au mois de décembre, ça chahutait pas mal, surtout pour Zidane. Hein, parce que je vous rappelle qu'il a été menacé cette saison à 3 reprises, dont 2 fois. Il a été quasiment à un but d'être viré du Real Madrid. Beaucoup de critiques dans son dos, notamment de la part de dirigeants qui parlaient à des journalistes, etc. C'était pas beaucoup mieux pour Ronald Koeman au Barça qui se faisait démonter. Là, ce soir, au moment où on se parle, là, les deux équipes, les deux entraîneurs peuvent réaliser le doublé cette saison. Le Real Madrid doublé Liga, Ligue des Champions. Je vous rappelle le résultat très positif du match aller de mardi contre Liverpool 3-1. Ouais. Et puis le Barça peut gagner la Liga et la Coupe du Roi la semaine prochaine contre l'Athletic Club de Bilbao. Donc voilà, dans une saison qui paraissait très 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 morose, il y aura peut-être un doublé pour une des deux équipes. Quoi. Donc c'est vraiment un match qu'on attend. Puis j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a autour de ce match.
Elle est comment justement? Parce que
mais l'ambiance, je le disais dans l'after, chez Roten hier, j'ai eu l'honneur d'être invité chez M. Roten.
Ah. Et je disais, mais Roten c'est Régal.
Voilà, Roten Régal.
18h-20h sur.
Exact. Très bonne émission, je vous la recommande. Et c'est un duel sportif, mais que sportif, mais avec beaucoup de respect. C'est-à-dire que nous sommes dans une période quand même très difficile. L'Espagne a souffert, l'un des pays du monde qui a le plus souffert de la pandémie. Cela aurait été indécent de voir des attaques un peu basses, etc. Là, qu'est-ce qu'on a vu?
Ce que tu nous dis là, on pense tous aux années Mourinho-Guardiola.
C'est exactement ça.
C'est l'exact opposé, c'est ça?
C'est l'exact opposé. D'accord. Parce que on voit par exemple Zidane et Benzema qui ont dit du bien de Messi. Zidane qui disait hier, j'espère que Messi restera au Barça parce que c'est important d'avoir de vrais bons rivaux, etc. Et puis suite aux déclarations pas très fair-play, hein, puisque c'est un club anglais avec un entraînement de Klopp l'autre jour après sa défaite où ils sont quand même fait balader par le Real, accuser le stade Di Stéfano, parce que c'est un stade, faut peut-être lui expliquer que c'est pas le stade d'entraînement mais c'est le stade dans le centre d'entraînement du Real, le stade de l'équipe B.
C'est là où il y aura d'ailleurs le classico.
Exactement, ce soir, voilà. Donc c'est exactement quasiment au centimètre près les mêmes dimensions, les mêmes pelouses qu'à Bernabéu. Oui. Donc Ekeman hier interrogé sur les plaintes de Klopp, justement parce que le Barça joue ce soir à Valdebebas au centre d'entraînement au stade Di Stéfano, a dit mais attendez, mais il a défendu Zidane, il a défendu le Real, on dit attendez, mais c'est un stade de foot, c'est bon quoi. Enfin, c'est pas
ça a bien changé, hein, le temps change.
Oui, mais après, ça pourrait revenir, mais c'est vrai que le contexte n'aurait pas supporté que le match se joue en dehors du stade par des déclarations un peu lamentables. Non, enfin, c'est un bonheur quand même de pouvoir faire du football pour ces gens-là et pour nous de les voir. Donc, ils sont très, très sains dans leur approche de cette rencontre.
Le championnat biélorusse, on aimait bien il y a un an, mais à petite dose quand même. Kevin, quand on regarde les trajectoires ces dernières semaines de ces deux clubs, on a du mal à dégager un favori en fait, parce que les deux ont l'air en pleine forme.
Ouais, c'est vrai. Après, il y a quelque chose. Tu te rappelles tout à l'heure, on parlait avec notre auditeur, je crois que c'était Malek, qui reprochait aux médias français de critiquer. Mais t'as vu ce qu'a dit Fred. Les mecs, ils sont encore les deux entraîneurs, ils sont encore dans deux compétitions majeures de ce qu'ils peuvent jouer par saison, et ils ont été ultra critiqués, voire sur la sellette trois fois pour Zidane. Donc moi déjà, je suis content que Zidane soit toujours l'entraîneur du Real, et même que Koeman soit toujours l'entraîneur du Barça, parce qu'il y a un moment, il faut aussi que les dirigeants se rendent compte des situations et de la situation, comme l'a bien dit Fred, qui est quand même extra foot, déjà très compliqué. Donc un joueur de foot, ça reste un être humain et un entraîneur pareil. Donc je trouve que c'est très bien que ces deux entraîneurs aient réussi à redresser la barre, et j'espère, petite parenthèse, que Zidane pourra, pourquoi pas, former un nouveau Real tout en gardant ce qui a marché, et pourquoi pas en rajoutant 3-4 éléments, parce que cet effectif en a besoin. Mais après, c'est un match qui est indécis, parce que, comme vous avez fort justement dit, et deux équipes qui sont quand même en forme. Moi, le Real m'a surpris face à Liverpool. Je pensais qu'ils seraient beaucoup plus en difficulté que ça. Ils ont montré pas mal de maîtrise.
Notamment physiquement. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que techniquement, avec un milieu comme ça, quand Kroos, Modric et Casemiro sont là,
c'est pas mal quand même au milieu aussi.
Mais physiquement, le Real a vraiment été très supérieur à cette équipe de Liverpool.
Et puis le Barça revient très bien. On l'a vu lors du retour, notamment à Paris. Donc, franchement, bien malin celui qui pourrait donner le résultat
de ce match. Mais de toute façon, parce que là, si on regarde la tendance des derniers jours, Real qui a fait un très bon match contre Liverpool, le Barça qui a fait un très mauvais match contre Valladolid avec un but 92e de Ousmane Dembélé, qui sera l'une qui est vraiment l'homme en forme de cette équipe du Barça, en tout cas le plus régulier dans la performance.
Aussi, c'était inattendu.
Bah oui, mais là aussi, bon travail de Koeman qui l'a remis dans le droit chemin. Il mange mieux, il dort, il arrive plus à aller en retard à l'entraînement, il se blesse plus, comme par hasard. Mais même un classico doit être mis en dehors du contexte sportif, en fait.
Ouais.
Parce que on a vu parfois un Barça qui allait pas bien s'imposer facilement contre le Real, un Real qui allait pas bien s'imposer à Barcelone. C'est tellement ouvert toujours que c'est tellement un match si spécial. Par contre, on va quand même dire les absents, parce que c'est pas rien. Côté Real, pas de Hazard, pas de Ramos, pas de Varane, toujours positif au Covid, pas de Carvajal. Et côté Barça, Sergio Roberto et Gérard Piqué sont dans la liste des convoqués. Personne ne s'attend à les voir jouer. Sauf qu'il semblerait, d'après la presse catalane, que Gérard Piqué fait une infiltration d'anti-douleur.
Ah.
Et qu'il est très envie de disputer cette rencontre.
Ouais, mais non. Peut-être pas une bonne nouvelle pour le Barça.
Bah non, parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain à l'aller. Vous vous souvenez de Piqué qui essaie de retenir un certain Kylian Mbappé. Ouais. On a tous vu cette photo extraordinaire. Et donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Koeman va refaire la même erreur? Après, c'est une question d'autorité d'entraîneur. Un entraîneur sûr de lui, autoritaire, qui est le patron, il met pas à Piqué. S'il le met ce soir, c'est très très dangereux. Surtout que dans une semaine, il y a la finale à la Coupe du Roi. Donc il pourrait perdre, se reblesser.
Surtout que normalement, je dis bien normalement, Koeman est un entraîneur autoritaire.
Normalement, oui, tu le connais bien, toi, oui, bien sûr.
Il est 19h49, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Foot avec Fred Hermel, avec Kevin Diaz, la Dream Team Foot RMC. Là, on s'intéresse ce soir à ce classico, ce Real Madrid-Barcelone que vous vivrez sur RMC à partir de 21h. Comment on explique ce redressement? Fred, tu parlais de Koeman pour Dembélé, mais comment expliquer que ces deux équipes qui étaient fond du trou, c'est un peu fort, mais qui étaient vraiment pas bien en fin d'année dernière, là, au printemps, au mois d'avril, se retrouvent sur des séries impressionnantes. Le Barça, 19 matchs sans défaite en Liga. Le Real Madrid, 7 victoires et 2 nuls, série en cours. Comment expliquer que ces deux clubs soient revenus comme ça? Parce que en décembre, on aurait du mal à parier
voir comme ça aujourd'hui. Sauf que les compétitions ne se jouent pas en décembre. Elles se jouent à partir du mois d'avril. Ces équipes-là sont programmées pour être performantes. Le 11 du Real, on le donne?
Oui,
rapide.
Là, ça y est.
Bah oui, c'est le 11 face à Liverpool, sauf que Valverde remplace Asensio. Donc Zizou renforce un petit peu son milieu de terrain face au Barça. Il fera rentrer Asensio en deuxième période, et donc on attend aussi celui du Barça que je cherche.
4-4-2 en losange.
Non, c'est un 4-3-3, mais 4-3-3 en attaque, et c'est un 4-4-2. Quand ils perdront la balle, Valverde descendra d'un cran. Okay. Et donc, on va chercher aussi le Barça. Je vais vous le donner. Ter Stegen, Dest, Araujo, Sergio, Messi, Dembélé, Langlais, Pedri, Alba, De Jong, Mingueza. Donc, pas de risque, pas de piqué. Voilà.
3-4-3 classique.
Voilà, exactement. Ce qu'on voit, c'est quand même 2-11 un petit peu conservateur.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on fait pas de folie du côté de Koeman, ni de folie du côté de Zidane. Mais bon, la folie, ça sera dès que le premier but sera marqué et que là tout, bah, toute la tactique sera bousculée. Bah, j'ai très excité de voir cette rencontre parce que ce qu'on veut voir, c'est un Real et un Barça au top niveau. Voilà, parce qu'il y a une chose à rappeler, c'est que c'est le match le plus regardé au monde, le match de club le plus regardé au monde, plus que la finale de la Ligue des Champions. C'est classico. Ah ouais, c'est...
Alors, attends, c'est une vraie info ou c'est l'info?
Non, mais ça c'est calculé. Ça c'est calculé, bien sûr.
Non, mais c'est vrai que...
C'est un potentiel de 650 millions de téléspectateurs.
Ouais, ça reste. Il n'y a rien à dire, hein. Le classico, de toute façon, c'est le seul, l'unique, le vrai.
En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'on attend un jour la finale de Ligue des Champions, Real Barça.
Oui, mais je crois, en fait, qu'il y a moins de pays qui ont les droits de la Ligue des Champions que de ceux qui ont le droit de la Liga.
Ah ouais.
Et puis, il y a pas mal de clubs qui sont passés devant aussi ces dernières années, hein, Fredo.
Qui sont passés devant
en Europe, genre pour arriver à retrouver le Real et le Barça en finale. Voilà.
Bah, le Real, c'est 3 ans. Hein.
Ouais.
Attends, alors on va répéter. Alors le Real Madrid de Zinedine Zidane a remporté la Ligue des Champions en 2016, absolument. En 2018. Et puis ceux qui ont remporté depuis, n'ont pas réussi à faire le doublé. Ouais. Je vois Liverpool une fois, donc voilà. Mais trois ans, c'était il y a pas longtemps.
Ah, 3 ans, il s'en passe des choses en 3 ans. Regarde, j'ai eu 2 enfants en 3 ans. Fred,
oh là là.
rapidement, entre le Real et le Barça, si tu l'as en tête, est-ce qu'il y a un des deux clubs qui a un calendrier vraiment favorable d'ici la fin de saison pour essayer d'aller chercher le titre? On rappelle que l'Atlético, d'ailleurs c'est peut-être l'Atlético qui a le meilleur calendrier, qui est en tout cas un point devant le Barça au classement.
Il y a un avantage pour le Barça, c'est qu'il dépend de lui-même puisqu'il rencontre le Real et il va rencontrer l'Atlético. Voilà, donc le meilleur calendrier n'est dans ce cas-là pas forcément le plus accessible. Le meilleur calendrier, c'est celui où tu dépends de toi-même. Donc c'est le Barça qui dépend de lui-même, puisqu'il bat le Real, il bat l'Atlético et il gagne tous ses autres matchs, il est champion.
Fred Hermel, en direct sur RMC. Merci Fred, on te retrouve dans l'after, évidemment.
Et bonjour aux enfants.
Ouais, merci, on n'y manquera pas en rentrant ce soir. Hâte de rentrer, hein, évidemment.
Après le classico, donc.
Oui, évidemment. Ouais, bonne idée, tiens. On va rester là pour regarder ça. On te retrouve dans l'after, Fred. Merci beaucoup. 19h53, Kevin, merci également.
Merci à toi.
Je remercie Geoffrey Cherpillon en régie et j'accueille Benoît Boutron, l'intégral foot.
Oui.
Salut Benoît.
Alors là, une soirée complètement dingue. Salut Thibaut. Moi, je veux. Salut ta femme surtout. C'est elle qui a du courage, puisque tu bosses tous les week-ends, donc elle gère les 3 enfants toute seule. Du courage. Ça, c'est pas beau.
Courage de me supporter, déjà.
Énorme soirée foot sur RMC, de la Ligue 1, de la Ligue 2, du classico. Magnifique, avec notamment ce Montpellier-Marseille à partir de 21h. Une heure, tous les matchs de la 32e journée de Ligue 2, le Classico, évidemment, commenté avec Kevin et Fred Picken, et puis votre rendez-vous habituel. Les infiltrés d'RMC, 20h45, ce soir, c'est Gauthier Arseneur, le gardien de but du Stade Brestois, à la veille de Brest-Nîmes. On va se régaler, évidemment, jusqu'à 23h sur RMC.
RMC Intégral Foot.